Merci beaucoup, Will, toute son équipe. Encore une fois, c'est toujours plaisant de chanter, glorifier notre Dieu. Et ça nous prépare, comme je dis toujours, pour le grand jour autour du trône de l'agneau. On va être là en train de dire « L'agneau est digne ». Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver encore une fois l'épître de Paul aux Romains. Et nous sommes encore une fois dans le chapitre 8. Et notre texte pour ce matin, c'est les versets 17 et 18. Et encore une fois, je dois vous avouer que je suis émerveillé devant la richesse et la profondeur de ce chapitre. Chapitre qui nous parle de la nouvelle vie du croyant en Jésus-Christ, vécue dans la puissance de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint qui, dans les 27 premiers versets, est l'acteur principal et qui confirme maintes et maintes fois la sécurité du croyant. Et tout cela découle de cette déclaration monumentale que nous avons. Premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et j'espère que ce matin vous l'entendez très bien. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quelle sécurité, quelle consolation. Et surtout quand nous luttons avec le péché, et parfois quand nous nous trouvons dans Romains chapitre 7, où encore une fois il faut crier envers Dieu, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. » Merci Seigneur que Romains chapitre 8, verset 1 existe, que malgré cette chute, malgré que le péché qui nous enveloppe si facilement, Dieu ne nous condamnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est ce que nous avons dans Romains chapitre 8. Alors ce matin, nous voulons regarder le sixième aspect de l'œuvre de l'Esprit dans la vie du croyant. Et j'ai intitulé cela « Approuver pour la gloire ». Et on pourrait voir le deuxième diapo. Rapidement, nous avons déjà vu cinq autres aspects. Ce matin, on va se focaliser sur le sixième, approuvé pour la gloire. Et nous trouvons cela dans nos versets 17 et 18. Deux textes qui sont en réalité une suite logique des versets 15 et 16, où le Saint-Esprit va nous confirmer notre adoption comme des fils de Dieu. Nous avons vu cela la semaine dernière. Et cela n'est pas tout. Il y a quelque chose qui est rattaché, qui est attaché à notre statut de fils de Dieu, c'est notre héritage. Alors, on va lire notre texte pour ce matin, Romains 8, 17 et 18. On va prendre le verset 16 pour le contexte. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée et pour nous. Et voilà. Héritier par la grâce de Dieu, et qui dit héritier, dit aussi héritage. Et c'est ce que j'aimerais faire ce matin. J'aimerais considérer avec vous quelques aspects de notre héritage. Alors, dans un premier temps, regardons les enfants de l'héritage. Les enfants de l'héritage. Regardez votre texte encore, si vous voulez, au verset 17. Le texte nous dit ceci, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Et la Bible nous donne plusieurs textes qui vont justement renforcer cette vérité. Je vous en cite quelques-uns. Galates 3, 26 dit ceci, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et le verset 29 ajoute, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, vous êtes ses fils spirituels. » Et le texte ajoute, « Héritier selon la promesse. » Galates 4, 6 et 7 nous dit ceci, « Sont presque identiques à ce que nous avons dans Romains 15 et 17. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, « Abba, Père, ainsi, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et un dernier texte dans Éphésiens 1, 11. « En lui, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus, quoi? Héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses selon sa volonté. » Alors voilà. Pas besoin de multiplier les textes ce matin, mais l'enseignement de la parole est clair. Ceux qui sont fils de Dieu, enfants de Dieu, sont aussi ses héritiers. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser ce matin, pourquoi le fait d'être enfant fait de nous aussi des héritiers? Quel est le lien entre enfant et héritier? Et comme les jeunes disaient souvent, mais c'est quoi le rapport entre les deux? Alors, on va répondre par cette question, par une autre question. Qu'est-ce qu'un héritier? Et là, je suis allé fouiller dans le dictionnaire, le petit Larousse, et j'ai trouvé ceci. Un héritier, c'est une personne qui est appelée par la loi à recueillir une succession. Toute personne qui hérite des biens d'un défunt. Et vous savez que souvent, ça fait de la chicane, n'est-ce pas? Et puis même, des personnes ont hâte que le vieux bonhomme y crève parce qu'ils veulent avoir l'héritage. Ça peut aussi parler d'un enfant, et aussi ça peut parler d'une personne qui recueille et continue une tradition. Et la forme verbale, le verbe hériter, est définie comme suit, recueillir un héritage, recevoir par voie de succession. Alors on peut hériter d'une grande fortune. Cela aussi peut dire, écoutez bien, recevoir ou tenir de ses parents. Quelque chose que tu tiens ou tu reçois de tes parents. Ça peut être un trait physique, quelqu'un qui a hérité des yeux bleus de son père. Ça peut aussi être un caractère ou une disposition d'esprit, quelqu'un qui, un enfant qui a hérité de sa mère l'amour pour la peinture. Ou bien aussi des biens matériels, on peut hériter de ses parents une maison, whatever, et ainsi de suite. Alors ce matin, le texte nous dit que nous sommes enfants de Dieu, vous êtes enfants de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes héritier de Dieu. Nouveau né dans le Seigneur, petit bébé, venez tout juste de mettre votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes son héritier. Adulte dans le Seigneur, ça fait des années que vous êtes sauvé, vous progressez dans la sanctification, vous êtes aussi héritier de Dieu. Homme, femme, vous êtes aussi héritier de Dieu. Anglais, français, espagnol, brésilien, vous êtes aussi un enfant de Dieu, vous êtes aussi son héritier. Vous êtes blanc, noir, rouge, jaune, je ne sais pas quoi, qu'importe la couleur, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes aussi son héritier. Et je suis ce matin émerveillé devant la grâce de Dieu, un Dieu devant lequel il n'y a pas de favoritisme. Vous savez, nous sommes en train de parler de la doctrine, Romains chapitre 1 jusqu'à 11, la doctrine 12, et ensuite c'est la pratique. Mais cette vérité aussi a une application très pratique pour nos vies. Et vous savez, et si on saisit cette vérité, parce que ce qui est triste, et je sais que ce n'est pas tellement le cas ici, mais dans d'autres pays, et surtout chez nos voisins du Sud, il y a une grosse problématique en ce qui concerne les couleurs, les races. Et j'espère que dans cette église, cela ne se trouve pas. Que parce que quelqu'un n'est pas de la même couleur, de la même race, qu'on pense que nous sommes supérieurs à cette personne-là. Enfant de Dieu, héritier de Dieu, à part égale. Et ça, c'est la doctrine de Romains chapitre 8, que nous venons de voir. Et si on pourrait saisir cette vérité, ça réglerait beaucoup de problèmes. Et ma prière que cela ne caractérisera jamais l'assemblée de Cap-Nomadien. Ça peut créer beaucoup de problématiques, tellement de difficultés entre les frères et les sœurs, à cause du fait qu'on fait des distinctions entre les races, les couleurs, la langue et ainsi de suite. Mais ce matin, nous voulons nous réjouir dans cette vérité que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers. Alors, nous avons les enfants d'héritage de son peuple, mais le texte nous parle aussi de l'espérance de l'héritage, l'espérance de l'héritage. Et quand on parle de l'espérance de l'héritage, il faut bien saisir justement le sens de ce mot espérance. L'espérance biblique ne parle pas de l'incertitude. C'est comme si on dirait, mais écoute, j'espère ne pas attraper la grippe cet hiver. Pas certain, mais j'espère que cela n'arrivera pas. C'est pas ça, l'espérance biblique. L'espérance biblique, c'est quelque chose qui est absolument certaine. Et Will a cité un texte ce matin et on a parlé aussi de la gloire. Et Romains 5, verset 2 nous dit ceci, pas besoin d'y tourner, mais Paul nous dit que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Que je suis certain de voir et de participer dans sa gloire. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est certain. Une certitude. Alors ce matin, notre héritage est certain. Et le texte nous dit ceci, regardez encore au verset 17. Si nous sommes aussi héritiers, nous sommes aussi héritiers de qui? Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes enfants, nous sommes héritiers et nous sommes héritiers de Dieu. Et cet héritage, comme je le dis, est certain. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi notre héritage est si certain si nous sommes des héritiers de Dieu? Vous savez, quelqu'un pourrait bien dire, mais écoute, qu'est-ce qui arrive? C'est bien beau de dire vous êtes héritier, mais qu'est-ce qui arrive si vous faites une coche mal taillée et le père décide de vous déshériter? Et vous savez, ça arrive dans la vraie vie. J'ai déjà lu un article en parlant justement du prince Charles, fils d'Élisabeth II, reine d'Angleterre. Et à cause des scandales qui étaient arrivés dans sa vie, le titre de l'article était « Le prince Charles n'est pas digne d'être le futur roi. Bref, il n'est pas digne d'hériter du trône d'Angleterre. » Quel contraste avec le peuple de Dieu dont l'héritage est certain. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que tout d'abord, notre héritage est basé sur les promesses de Dieu. J'aimerais vous lire un texte qui me fait tellement du bien et qui est tellement important à saisir. Philippiens 1, 6 nous dit ceci. Je suis persuadé, Paul dit, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va l'achever, va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et quel est ce jour? Mais c'est le jour où il va paraître dans toute sa gloire et nous allons être glorifiés avec lui. Martin Lloyd-Jones, un grand prédicateur britannique, a dit ceci. Le salut ne peut pas s'arrêter sans avoir atteint la perfection. Sinon, ce n'est pas du tout le salut. Le salut et la glorification vont ensemble. Sinon, salut sans glorification, ça n'existe pas. J'aimerais vous dire ce matin, ce que Dieu commence, il achève. Et nous avons un texte dans Romains 8 au verset 30 qui dit ceci: « Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alors, votre héritage et mon héritage est certain, certain, certain. Parce que Dieu a commencé une bonne œuvre, il va l'achever, il va l'achever. Alors, notre héritage est basé sur la promesse de Dieu. Mais non seulement aussi sur les promesses de Dieu, mais aussi sur la personne de Dieu. Vous savez, à quoi bon être héritier si la personne qui va vous léguer justement ses biens n'a rien à vous donner? Vous êtes son enfant, vous êtes son héritier, mais si les poches sont vides, ça ne vous avantage pas. Colossiens 3, 24 nous dit ceci: « Sachant que vous recevrez du Seigneur. » Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et regardez bien ce que le texte dit. Il faut le voir. Vous recevrez du Seigneur. Du Seigneur qui est avant toute chose, en qui toute chose subsiste, pour qui a créé toute chose, le Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui est le souverain dans tout l'univers. Vous allez recevoir votre héritage de lui. Alors, ligne de fond, l'héritage est certain. Dieu ne fait jamais faillite. Il vous a promis l'héritage. Vous êtes ses héritiers. Vous allez le recevoir. C'est garanti. Et troisièmement, notre héritage est certain à cause de la puissance de Dieu. 1 Pierre 1, 3, 4 dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé où? Dans les cieux. » Vous savez, réservé veut dire quoi? Réservé. Ça veut dire que Satan, avec toute sa puissance, ne peut pas le toucher. Les démons, avec toute leur puissance et toute leur malveillance, ne peuvent pas le toucher. Même le temps ne peut pas l'affecter. Réservé veut dire simplement réservé. Notre héritage est absolument sûr, absolument certain. Alors nous avons les enfants de l'héritage, c'est nous, les héritiers. Nous avons l'espérance, qui est certain. Mais j'aimerais aussi vous entretenir sur l'envergure de l'héritage, l'envergure de l'héritage. Le texte nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et ça nous pousse à poser deux questions. Qu'est-ce que nous allons hériter de Dieu? Et quelle est la signification de co-héritier de Christ? Co-héritier avec Christ. Alors, vous savez que Dieu est riche. Hein? C'est tellement une grâce d'être à son héritier. Dieu est tellement riche. Ses possessions sont incroyables. Dans un premier temps, nous avons un texte dans Tite 3.7 qui nous dit ceci. Et le contexte, c'est la miséricorde de Dieu. Il a répandu sur nous. Dieu a répandu sur nous sa miséricorde. Avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions co-héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Première chose qu'on va hériter de Dieu, c'est la vie éternelle. Et certes, nous la possédons déjà. Je vous cite le texte dans 1 Jean 5,13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais, lors de l'acquisition de notre héritage, nous allons entrer dans la plénitude de cette réalité. La vie éternelle, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez. Mais c'est en partie. Mais quand le Seigneur va nous donner cet héritage, on entrera pleinement dans la plénitude de notre héritage, la vie éternelle. Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons comment face à face. Vous êtes capable de regarder le Seigneur dans toute sa gloire et de le contempler face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'étais connu. Toute la connaissance que Dieu a, il nous connaît au fond. Cette connaissance aussi sera la nôtre. Je connaîtrai comme j'étais connu. Quelle grande vérité. Deuxièmement, nous allons hériter d'un royaume. Apocalypse 3, 21 nous dit ceci, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. » Et un trône parle de quoi? D'un royaume. Et nous avons un texte aussi dans Matthieu 25, 34 qui est semblable. Le Seigneur va dire ceci, « Prenez-vous, qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. » Alors, une partie de notre héritage aussi, c'est de régner avec le Christ. Je ne peux pas imaginer comment ça va être, mais je sais que c'est là, dans le texte. Et c'est une chose qui est grandiose de partager justement cette autorité avec le Christ et de régner dans son royaume. Nous allons aussi hériter de la gloire. Matthieu 13, 43 dit ceci, « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Pouvez-vous imaginer cela? L'éclat qui va sortir justement de nous. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Philippiens 3, 21 nous dit ceci, il parle du Seigneur qui va revenir. Il a dit que notre citoyenneté est dans les cieux. Et là, nous attendons le retour du Seigneur qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas ici. D'être semblable, d'avoir un corps semblable au corps du Seigneur Jésus-Christ, le corps glorieux. Fini les bobos. Fini les maux de dents. Fini les maux de ventre. Fini, qu'est-ce que vous voulez? Fini! Un corps glorieux et pour toute l'éternité. Mais le texte nous dit aussi que nous sommes des co-héritiers de Christ. Et je me suis posé cette question, qu'allons-nous hériter que Christ aussi va hériter? On est co-héritier de Christ, co-héritier de Christ. Alors, qu'est-ce que Christ va hériter que nous aussi, nous allons hériter? Alors, il faut comprendre le texte, c'est dans le contexte. Dans le système judaïque, le terme co-héritier n'existait pas. Il y avait le fils aîné, il y avait tout ce qui venait après. Et quand il s'agissait de l'héritage, mais le fils aîné, lui, il avait le gros lot. Et les autres, il y avait une partie de ce qui restait. Il y avait le droit d'aînesse. On y voit cela à travers les Écritures. Il y a Ésaü qui a le droit d'aînesse. Et vous savez comment Jacob a manipulé les choses pour l'avoir. Parce que c'était quelque chose de très important. Nous avons aussi dans les 12 fils de Jacob, il y a Ruben qui est le premier né, qui a aussi le droit d'aînesse et ainsi de suite. Mais dans le système romain, et Paul est en train d'écrire aux Romains ici, il y a un autre contexte. L'héritage est divisé de façon égale parmi justement les enfants et même ceux qui avaient été adoptés. Alors on pourrait parler dans un terme juste d'un co-héritier. Et même les commentateurs nous disent ceci, que l'héritage d'un héritier était d'un fils adopté. un fils qui avait été adopté, son héritage était beaucoup plus sûr que les biens qu'il avait achetés pour lui-même. Encore une fois, le texte est en train de nous marteler cette idée que nous sommes les enfants adoptifs de Dieu et notre héritage est sûr. Alors, la question se pose maintenant, nous sommes co-héritiers de Christ, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va diviser également son héritage entre Christ et nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pose notre question. Qu'est-ce qu'il va hériter, Christ? Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. Qu'est-ce que Christ va hériter? Et dans Hébreux 1, 2, le texte nous dit ceci. Dieu, dans ces derniers temps, par du Fils, l'a établi héritier de toutes choses. Alors, dans un premier temps, il faut saisir cela. Christ, il va hériter toutes choses. Colossiens 1, 16 nous dit ceci, les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Éphésiens 1, 10 nous dit ceci, ça continue dans la même ligne. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et cette volonté, c'est que lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors c'est clair, Christ héritera toutes choses. Mais, Éphésiens verset 1, chapitre 1, verset 11, dit une chose qui est tout à fait remarquable. Le texte dit ceci, « En lui, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. » Alors, saisissez l'implication de ce texte. « En Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. » Alors, Christ est héritier de toutes choses. On vient le voir. Hébreux 1, 2. Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Nous sommes en lui. Nous sommes un avec lui. Nous sommes des héritiers en lui. La seule conclusion qu'on peut tirer de ce texte, c'est que nous aussi, en plus d'hériter le salut éternel, le royaume et la gloire, nous aussi, nous allons hériter toutes choses. Ça, c'est la signification d'être co-héritier de Christ ou avec Christ. Et je dois vous confesser que mon petit cerveau n'arrive pas justement à saisir cela. Ça fait sauter des neurones. Mais quel héritage? Quel héritage? Et c'est pourquoi Paul va dire dans Éphésiens 1, 3, il va dire ceci, « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Tout, il dit tout. Et 1 Corinthiens 3, 21 à 23 ajoute ceci, « Tout est à vous. Soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ. » Alors, co-héritier avec Christ, héritier de toutes choses avec lui. Et finalement, Dieu lui-même sera notre héritage. Vous savez, ça c'est grandiose, c'est éblouissant, c'est inconcevable, c'est notre héritage. Il y a quelque chose qui dépasse tout cela. Et c'est Dieu lui-même. Qui est-ce qui est le plus important? Les dons ou bien le donateur? Les bénédictions ou bien celui qui bénit? L'héritage ou celui qui donne l'héritage? Et vous savez, on peut bien saisir cela. Vous qui êtes marié, vous avez une épouse et vous lui faites plaisir si son langage d'amour, c'est les cadeaux, ou donner des cadeaux. Mais comment est-ce que vous allez vous ressentir si votre femme est doucement intéressé dans vos cadeaux que vous lui donnez et elle ne démontre aucun intérêt pour vous. Ça ferait mal. Alors Dieu aussi sera notre héritage parce que Dieu dépasse tout ce dont je vous parle. Et je vous cite quelques textes des hommes de Dieu qui avaient saisi justement cette grande vérité. Ésaïe, David et Chantre dit ceci dans Psaume 73, 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, et mon héritage. Jérémie, Lamentations 3, 24 a dit ceci, l'Éternel est mon partage, mon héritage. Dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Et le psaume 16, qui est un psaume messianique qui part du Seigneur, a dit ceci, l'Éternel est mon partage. Et au verset 6, il va dire ceci, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Et on voit aussi dans les enfants d'Israël, les tribus d'Israël, il y avait la tribu de Lévi, qui est un type justement du chrétien. Et Dieu va dire ceci, c'est pourquoi Lévi n'a ni part, ni héritage avec ses frères. Pourquoi? Parce que l'Éternel est son héritage. Comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Il y a un beau texte aussi dans Apocalypse chapitre 21, verset 3, qui parle justement du temps à venir. Le contexte, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. On est dans la félicité, on est dans l'éternité. Le texte dit ceci, « J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est ça notre héritage. D'avoir la personne de Dieu et d'être capable de nous réjouir et de jouir de sa personne pendant toute. Vous savez, je vais faire une application très pratique pour ce texte ici et dans l'expression co-héritier de Christ. Avez-vous déjà pensé à l'attitude de Christ à l'égard du fait que nous sommes ses co-héritiers? Du fait, comme nous venons de voir, que Dieu ne divisera pas l'héritage en parties égales entre ses enfants, mais Christ va recevoir tout. Et nous aussi, nous allons recevoir tout avec lui. Vous savez, ça, c'est une situation qui ne peut pas exister sur la terre. Hein? Quand il y a un héritage, d'habitude, comme je dis, c'est la chicane. Imaginez un père qui lègue, tiens, ses enfants, là, il y a 10 enfants, il dit, ah, tiens, je vous donne tout, puis chaque personne, vous avez tout. Ça ne marchera pas. Alors, il faut comprendre le statut de Christ. Parce que le texte nous dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Mais par sa personne, Christ est le premier-né. Il y a plusieurs textes qui nous disent ceci. Il est le premier-né de plusieurs frères. Il est le premier-né de toute la création. Et c'est une position d'excellence, de ce qu'on appelle de primauté. Ce n'est pas le fait que Christ a eu un commencement. On ne parle pas de son origine. Il est Dieu depuis l'éternité. Il n'y a ni commencement ni fin. Mais le premier-né lui donne une position de primauté, d'excellence. Il est dans une catégorie à part. Et pourtant, son héritage, il partage tout avec nous. Et son attitude dans tout cela. Dans Jean chapitre 17, ce Seigneur va prier pour ses disciples. Il va dire quelque chose qui est tout assez très frappant. Écoutons ses paroles. Il dit, je leur ai donné la gloire. Il part à son père. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. À ses disciples, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous le voyez, Christ est le premier-né. C'est le chef. C'est le top. C'est le glorieux. Il va prendre sa gloire. Il va donner cette gloire aux siens. Le texte nous dit ceci, afin que eux aussi soient un, comme lui et le Père sont un. Alors, si Christ prend sa gloire que Dieu lui a donnée, il donne ça aux siens. Ça veut dire aussi que quoi, les siens aussi sont glorieux comme lui. C'est quoi l'application? Où est-ce que je m'en viens ici? Il n'y a pas de. Avec Christ, son attitude de partager cette gloire avec les autres. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie. Malgré le fait que c'est lui le premier-né, c'est lui qui a cette position de primauté, il prend sa gloire, il va la donner aux siens pour qu'eux aussi soient glorieux comme lui. J'ai pensé ici à une application dans la vie conjugale. Parce qu'il y a une application très pratique ici. 1 Pierre 3,7 nous dit ceci, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus délicat. Honorez-la, pourquoi? Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Honorez-la parce qu'elle est un co-héritière avec vous, monsieur, Marie. Honorez-la parce qu'elle est aussi une co-héritière avec Christ. Honorez-la parce qu'un jour, Christ va l'honorer en partageant tout avec elle. Christ nous accorde une honneur. C'est le premier-né. Il prend sa gloire, il prie son Père, la gloire que tu m'as donnée, je vais donner aux autres. Et dans le contexte d'une relation mari et femme, nous sommes exhortés aussi d'honorer nos épouses en se rappelant que c'est une co-héritière. Et Christ un jour va l'honorer. Il va partager tout avec elle. Et ce matin, monsieur, et je parle à moi-même, et je vais faire l'exercice dans de la maison. Si vous êtes en panne sèche, justement, des idées, là, comment vous pouvez honorer votre femme, va lui demander. Allez lui demander, va vous le dire. Deuxième application, il y a une application ici pour l'Église. Mais je vais aussi faire une extension parce que dans 1 Pierre 5,2, on parle aussi de bergers et de troupeaux. Mais on peut aussi faire l'application parents-enfants, patrons-employés. Bref, ça s'adresse à ceux qui exercent l'autorité. Je vous lis le texte. Pierre est en train de parler au berger. Il nous dit ceci. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non qu'en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, ceux qui sont votre héritage. Attention à votre attitude dans l'Église, vous qui sont en autorité à propos du troupeau de Dieu. À ceux qui vous sont échus en partage, votre héritage. Pourquoi? Parce que les brebis sont aussi l'héritage de Dieu, parce que c'est le troupeau de Dieu. Alors, c'est l'héritage aussi de Dieu. Et vu que c'est l'héritage de Dieu, ce sont des co-héritiers de Christ. Et comme Christ, souverain berger, agit justement avec ses brebis, avec douceur, et tendresse. L'exhortation est donnée à ceux qui exercent l'autorité de traiter ceux qui sont leur héritage de la même manière. Matthieu 11, 29, le Seigneur a dit ceci, je suis doux et humble de cœur. Alors le texte continue, soyez des modèles pour le troupeau. Je me dépêche, quatrièmement, l'entrée dans l'héritage. Le texte dit ceci, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il faut être très clair ce matin, on n'est pas en train de parler ici justement de la souffrance qui nous fait gagner le ciel. Ce n'est pas du tout le texte que le texte veut dire. Elle est assez souffert, là, il a assez souffert, là, il a gagné son ciel. C'est pas ça. Sinon, pourquoi ce Christ serait-il mort à la croix et Paul serait en train de démolir justement toute la doctrine de la justification par la foi seule? Il a pris tous ces chapitres-là pour établir argument après argument que le salut c'est seulement par la foi en Jésus-Christ. Mais le texte est en train de nous dire que si nous sommes des authentiques enfants de Dieu, on va hériter avec Christ, nous sommes ses héritiers. Nous sommes aussi appelés, nous allons être glorifiés avec lui. Mais entre les deux, il y a aussi le fait qu'on va souffrir avec Christ. Quelqu'un a bien dit ceci, il n'y a pas de couronne sans la croix. Il n'y a pas de chemin de la gloire passe par la souffrance. Alors, ça, c'est un fait, une réalité. Et pourquoi est-ce qu'on souffre? C'est parce que Christ aussi a souffert et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le monde a haï le Christ, va aussi nous haïr. Deux questions. Quelle sorte de souffrance et pourquoi la souffrance doit précéder la gloire? Alors, je pense que dans ce contexte ici, on parle de la persécution. Le monde peut nous persécuter par la moquerie, le ridicule, le mépris, la haine, le rejet, les mauvais traitements, etc., etc. Alors, il y a bien des choses. Le fait que vous appartenez à Christ, ils n'ont pas aimé le Christ, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Vous prenez position pour le Christ, le monde va vous traiter exactement de la même manière. Deuxième, Timothée 3:12 dit ceci, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. » Deuxième question, pourquoi est-ce que la souffrance doit précéder la gloire? Deux raisons pour cela. C'est parce que la souffrance fortifie notre foi. Ça nous aide à persévérer dans les afflictions. Et vous savez, quand il n'y a pas de trouble, quand il n'y a pas de persécution, qu'est-ce qui arrive? On va s'asseoir confortablement dans notre lazy boy, et on va prendre ça relax, on met ça sur le cruise, là, puis on s'en va. Et même aussi, on peut commencer à aimer le monde et être attiré par les choses du monde. John Piper dit ceci, et j'aime beaucoup sa citation, « La souffrance nous est réservée dans cette vie, car c'est en réalité une grande miséricorde qui nous empêche d'être plus en amour avec, qui nous empêche d'être plus en amour avec ce monde qu'avec notre héritage en dehors de ce monde qui est Dieu lui-même. » Il y a un autre texte aussi qui nous parle des souffrances qui est comme un feu qui nous purifie. Et pourquoi est-ce qu'on met l'or, comme Pierre nous dit, votre foi, c'est comme l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par le feu. Ce n'est pas pour détruire l'or. L'idée, c'est de prouver que c'est authentique. Et quand Dieu amène des souffrances, des afflictions dans notre vie, c'est justement pour démontrer l'authenticité de notre foi. Et qu'est-ce que Job a dit dans Job 23, 10? « Si m'éprouvé, je sortirai pur. » Comme l'or. Alors, on passe par les souffrances. Et quel serait le résultat? On pourrait dire de vous, voilà une femme, éprouvée, oui, mais aussi approuvée. Approuvée pour la gloire. Et vous pourrez dire avec Paul, je termine avec ceci. Paul, il va dire ça au verset 18, c'est notre dernier verset. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et j'ai mis ici, pourquoi? À cause d'eux, et c'est votre dernière vitamine pour la journée, la vitamine E, l'excellence de l'héritage. Les souffrances sont temporaires, mais la gloire est quoi? Éternelle. Les souffrances sont légères, mais la gloire est pesante. Paul y va parler dans 2 Corinthiens 4, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une proie éternelle de gloire. On va laisser Job avec le dernier mot. Je termine avec cette citation. Job va dire ceci dans ses dures afflictions. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lavera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lavera. » Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Et après, il a dit, mon âme languit au-dedans de moi. J'ai hâte, aujourd'hui. Mon âme languit au-dedans de moi. J'ai hâte à ce jour lorsque je vais voir le Seigneur face à face. Et il me sera favorable. Vous savez que c'est réciproque. Ésaïe 53 nous dit ceci, « Il verra une postérité et il prolongera ce jour. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Il va regarder l'Église, il va vous regarder, puis il va dire, « Ça a valu la peine. » On va prier. Seigneur, on te remercie pour ta grâce. Merci d'être un Dieu si merveilleux, si grandiose, si riche, si généreux. Seigneur, accorde-nous d'être attachés à ce qui nous est réservé, notre héritage. Donne-nous, Seigneur, le fait de nous réjouir parce que nous savons que notre héritage nous attend. Bénis ton peuple, c'est par nous avec ta bénédiction. Nous demandons.